Et il est midi à la pendule de fréquence 7. On retrouve le 11e ou 12e journal des rencontres du cinéma d'Europe. Et en direct du studio, nous avons Léna.
Bonjour et bienvenue en ce samedi 25 novembre. C'est comme d'habitude jour de marché à Aubenas, mais c'est aussi le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour, du Festival des rencontres des cinémas d'Europe. Alors si vous avez passé la semaine derrière votre bureau, c'est l'heure de se mettre en route pour les cinémas, car c'est votre dernière chance. Alors dans un instant, nous allons accueillir le danseur Bilal Alami Badissi qui cet après-midi fera une performance à 14h avant le film Dancing Pina. Mais en attendant de l'accueillir, je vais vous présenter quelques événements du jour. Donc ce soir à 17h30 au Centre Le Bourneau, vous pourrez aller voir Woman at War. C'est un film islandais qui est sorti il y a déjà plusieurs années, qui est déjà passé au festival et qui a été élu cette année par les bénévoles pour être projeté à l'honneur des 25 ans du festival. Alors, Woman at War, c'est l'histoire de Ala, la cinquantaine, qui déclare la guerre à l'industrie locale de l'aluminium qui défigure l'Islande. Et elle va commettre des actes qu'on pourrait qualifier de terroristes, un peu hors du commun, car c'est avec un arc et des flèches qu'elle va s'en prendre aux lignes de haute tension électrique. Et en parallèle de ce combat politique, il y a une deuxième histoire, c'est qu'elle elle a fait des démarches pour... Enfin, je ne vais pas vous en dire trop, mais il y a une petite orpheline qui va arriver dans sa vie et du coup les deux histoires vont se croiser, l'accueil de cette petite fille orpheline et puis la lutte contre l'industrie locale. Je ne vous en dis pas plus. Allez voir ce film, il est très original. Déjà, il y a les paysages islandais, la langue islandaise, le scénario assez du commun et puis c'est pas souvent qu'on voit des films islandais. Donc ça, c'est pour ce soir. Alors en attendant l'arrivée de notre invité, pour se mettre un peu dans le thème, je vais faire un petit retour sur le corps au mouvement, dont on a déjà eu l'occasion de parler jeudi, avec les invités de notre focus. Et à l'issue de ce focus, j'ai un peu cogité sur comment était présenté le corps dans les différents films que j'avais pu voir. Et puis, je me suis souvenue d'une remarque qu'avait fait l'une de nos invitées qui avait dit « On dit le corps en mouvement, mais en fait, de quel corps parle-t-on » Et voici donc un petit texte sur cette question de quel corps met-on à l'honneur en fait quand on dit le corps en mouvement. Alors, il y a le corps transformé en œuvre d'art et vendu aux enchères. Trafic d'êtres humains, diront certains. Et pourtant, en devenant une marchandise, cet homme syrien obtient la liberté de mouvement vers l'Occident. Là, je fais référence au film « L'homme qui a vendu sa peau » que vous pourrez encore voir ce soir à 18h. Et puis, il y a le corps de Marion Cotillard qui devient celui de la défunte Carole Achache dans le film de Mona Achache. Une métamorphose dont le spectateur est témoin au cours du film. D'abord, elle revêt les vêtements de Carole et bientôt, c'est même sa voix qui se transforme. Là, je pensais au film Little Girl Blue, sur lequel nous reviendrons plus largement tout à l'heure à 17h avec notre invitée Mona Achache. Ensuite, il y a le corps de la gymnaste qui est corseté, maltraité, coupé de ses sensations, dissocié de la personne qui l'habite. Après ses années de pratique au sein de l'équipe de France, Valentine Sabatou, notre invitée de jeudi, s'est réappropriée ce corps à travers la danse contemporaine en explorant un mouvement qui vient de l'intérieur. Nous allons très bientôt pouvoir évoquer ce sujet plus largement avec notre invité qui vient d'arriver.
Et oui, il arrive, il nous attendait bien sagement, amis auditeurs, amis auditrices. Il nous attendait au Centre Le Bourneau et mais non, peut-être tu l'as dit, maintenant nous sommes rapatriés dans les locaux de Fréquence 7. Bonjour à vous tous.
Alors bonjour et bienvenue Bilal Alami.
Bonjour.
J'étais justement en train de nous échauffer en parlant du corps en mouvement. J'étais en train de faire une liste des différents films qui m'avaient évoqué le corps en mouvement et vous tombez à pic parce que j'allais justement évoquer le film de Pina.
Oui.
Ce n'est pas le film de Pina, c'est le film sur Pina. Et donc j'allais dire que il y a aussi le corps des danseurs de Pina et que c'est des danseurs qui sont invités à assumer leur rôle tel qu'ils sont, à insuffler la vie dans leur mouvement, à leur donner une âme. Alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc vous êtes danseur et chorégraphe, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et vous avez vu le film Dancing Pina?
Oui, bien sûr.
Et est-ce que vous... Donc on a déjà un peu évoqué ce film lors de l'émission de jeudi. Mais pour les éditeurs qui n'étaient pas là, je vais rappeler que c'est un documentaire sur la recréation, quelque part, de deux œuvres célèbres de Pina.
C'est ça.
Donc ce sont des danseurs qui ont dansé avec Pina, qui apprennent les mouvements à d'autres danseurs.
Exactement.
D'une part en Allemagne, cette adresse, il me semble.
C'est ça.
Et puis d'autre part au Sénégal, à l'École des Sables.
Exactement.
Et comment cette œuvre fait écho en vous et à votre conception de la danse ?
Alors, il y a toute la partie du coup sur l'École des Sables où la pièce qui est retransmise, c'est le Sacre du Printemps. Donc c'est une pièce de Pina Bausch qui est très connue. Et dans le film, en fait, il y a un accent très fort qui est mis sur l'importance de s'approprier le mouvement, de pas simplement chercher à copier la forme, mais vraiment à creuser profond à l'intérieur de soi pour produire un mouvement qui est vraiment le nôtre, en fait. Ça, c'est vraiment une particularité.
C'est se l'approprier, en fait.
Exactement, se l'approprier. Et ça, c'est une caractéristique très forte qui est beaucoup mise en avant dans ce film. C'est pour ça que je l'aime bien, d'ailleurs.
Et en tant que chorégraphe, comment vous dirigez vos danseurs ?
Alors, pour l'instant, j'ai créé que des pièces pour moi. Donc, j'ai écrit des solos. D'ailleurs, tout à l'heure, après l'émission, je performerai le dernier solo que j'ai écrit qui s'appelle Hors Champ.
Donc ça sera à 14h au cinéma Le Navire, juste avant la projection de Dancing Pina.
C'est ça, exactement. Et donc, quelle était votre question sur... vu que c'était par rapport aux danseurs, donc par rapport à moi, du coup, votre question, c'est comment est-ce que j'aborde...
Ma question, c'est comment vous dirigez vos danseurs, mais vu que vous vous dirigez tout seul, la question n'est peut-être pas très appropriée. Mais justement, je suis tombée sur une chorégraphie que vous faites vous-même dans le cadre du projet qui s'appelait Défaire Corps, c'est ça ?
Oui.
Et c'est un projet où vous travaillez sur les normes qui s'imposent au corps dans l'espace public.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, c'était un projet vidéo qui s'appelle « Je reviens, je vais faire un tour ». Et en fait, ça venait d'une sensation en fait, de me sentir toujours empêché. J'adore danser et souvent, je vais dans la rue et d'un coup, j'ai envie de danser. Et se mettre à danser comme ça dans l'espace public, c'est pas forcément évident parce que tout de suite, c'est une sorte de spectacle qui se crée, les gens... viennent nous regarder et c'est pas forcément toujours le désir d'être vu, c'est aussi danser pour soi qui est vraiment intéressant. Et donc en fait c'était un projet là-dessus sur comment dépasser finalement cette norme, cette interdiction en fait implicite de danser où on le souhaite. Et donc c'était à Paris dans le parc des Buttes Chaumont, qui est un parc où j'allais régulièrement marcher. Et donc, je danse. Je danse dans ce parc sur de la musique, sur de la bossa nova, qui est une musique que j'aime beaucoup. Et voilà. Et donc, le film je danse dedans. Il y a un travail de cadrage avec, on voit un petit peu tout Paris, donc c'est très beau, c'est très inspirant de danser avec un paysage pareil. Et il y avait aussi un travail sur la musique, sur du coup comment le rythme de cette bossa nova en question pouvait inspirer mon mouvement.
Oui, voilà. C'est très intéressant cette question, parce que c'est vrai que finalement quand on se balade dans la rue, il y a des choses qu'on se dit, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ose par exemple s'arrêter en plein milieu d'une place publique, dérouler son tapis de yoga et s'étirer par exemple,
oui.
Alors que c'est pas quelque chose qui est interdit en soi.
Tout à fait, et c'est vraiment ça le propos de ce projet. Voilà.
Et du coup, est-ce qu'on peut dire que quelque part vos danses, elle est politique, puisque là vous venez vraiment parler de la place des corps dans l'espace public?
Ouais, complètement. Mais d'ailleurs, je pense que c'est vraiment En tout cas, moi, c'est un des objectifs que j'assigne à ma pratique de la danse. C'est son pouvoir transformateur, en fait.
Vous pouvez préciser un peu transformateur en quel sens?
Oui, complètement. Du coup, c'est en lien avec le thème du focus, hein, corps en mouvement, corps en devenir. En tant qu'interprète, déjà, quand je danse, à chaque fois que je danse, il y a une transformation qui s'opère.
Pour vous?
Pour moi. D'un point de vue très concret dans mon corps, déjà. Également, voilà, dans mon corps, en fonction de où est-ce que je mets le curseur, il y a cette transformation-là. Après, il y a le dépassement aussi, par rapport à... voilà, au début, quand j'allais sur scène, les premières fois, ça pouvait être... il pouvait y avoir un sentiment de pas en être capable, ou ce genre de choses. Et en fait, par le mouvement, fait de s'exprimer, de danser, vraiment, on dépasse cette peur. Donc ça entraîne un processus de transformation aussi sur comment est-ce qu'on se conçoit nous-mêmes. Donc il y a toute cette transformation à l'échelle individuelle, qui est du coup politique pour soi. Et après, à l'échelle aussi plus collective, c'est quelque chose que je trouve très important. Et notamment parce qu'aujourd'hui, la danse se déploie beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, de manière virtuelle. Et on a tendance à l'appréhender parfois, justement, peut-être dans sa forme, dans quelque chose de... Justement parce qu'elle est dans l'image et que l'image, parfois, fixe un petit peu les choses. Et moi, je suis vraiment pour une danse qui se fait dans l'espace public, dans le présent.
Une danse vivante.
Une danse vivante. Et justement, pour donner à voir ce pouvoir de transformation, parce que je pense que quand on voit quelqu'un danser en chair et en os face à soi, qui nous regarde droit dans les yeux, là cette semaine je dansais une pièce où on était très proche, j'étais interprète pour une pièce où on était très proche du public, je m'amusais à regarder droit dans les yeux les personnes en face de moi, et il y avait vraiment une rencontre qui avait lieu, et je pense que c'est des choses qui transforment aussi les personnes qui nous voient danser et qui leur donnent envie de danser.
Donc finalement, ce que vous voulez transmettre au public à travers votre danse, c'est une sorte d'invitation à soi-même danser et rentrer dans le mouvement?
Complètement, parce qu'après, le travail de danseur, moi je le conçois dans sa dimension donc spectaculaire, et dans cette recherche d'un rapport plus proche aux spectateurs, spectatrices, mais aussi dans une pratique... toutes les médiations qui aujourd'hui se font de plus en plus auprès de différents publics, c'est quelque chose de très politique aussi, et que je trouve très important de développer.
Et que finalement la danse, c'est pas juste une performance artistique sur scène pour ceux qui soi-disant savent bien danser, mais vous vous invitez à une réappropriation de la danse, que tout le monde en fait peut se servir de cet outil.
Complètement. Et d'ailleurs, c'est le... Pour revenir sur Dancing Pina, moi je trouve que c'est vraiment le point fort de ce film, parce que bien sûr, il y a la dimension spectaculaire qui est là, on voit des extraits de danse, des extraits des pièces, mais il y a aussi un accent très fort qui est mis sur les interprètes eux-mêmes, leur rapport à la pièce, leur appropriation du mouvement, et qui est en fait la majorité du temps qu'on passe. On passe beaucoup plus de temps en répétition, à danser. Plutôt que sur scène, même si bien sûr c'est aussi ça qui est
super. Tout, on voit bien dans le film, surtout à l'école des sables au Sénégal, que c'est aussi une expérience de groupe en fait.
Exactement.
C'est pas juste la performance.
Ouais.
On est rentré un peu rapidement dans le sujet de la danse tout à l'heure et je vous ai pas laissé revenir sur votre parcours.
Ouais.
Et il me semble que vous avez fait un master en géopolitique.
C'est ça.
Et que vous travaillez en partenariat avec Jean-Michel, notre invité de l'autre jour.
Jean-François.
Avec Jean-François, sur les symbioses entre danse et discours scientifique.
Ouais.
Ça m'a paru un peu abstrait tout ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications ?
Bien sûr. Symbiose entre danse et discours scientifique, en fait... tout ça, c'est venu d'abord d'échanges. En mai dernier, je suis allé à Genève au sein de la chaire Yves Voltramar, qui est la chaire que dirige cette sociologue et anthropologue, politologue. Je ne sais jamais comment il faut le bon mot pour caractériser Jean-François. Mais en tout cas, je suis allé là-bas pour... discuter de comment est-ce que peuvent s'entrelacer en fait le discours scientifique et l'écriture chorégraphique. L'écriture scientifique et l'écriture chorégraphique.
Et est-ce que vous pourrez préciser quel champ scientifique ?
Dans ce cas-là, c'est vraiment l'écriture scientifique, plutôt sciences humaines, même très clairement sciences humaines, humanité, vu que c'est une chaire d'anthropologie, si je ne me trompe pas. Et donc, par exemple, au niveau du discours, on a observé qu'il y avait un certain nombre de dynamiques qu'on peut retrouver dans l'écriture chorégraphique et dans l'écriture scientifique. On peut revenir sur ce thème des normes. Il y a un certain nombre de normes qui régissent le discours scientifique, même des normes très fortes sur... comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on cite chaque personne quand on écrit un article. C'est vraiment un exercice très, très rigoureux. Et dans l'écriture chorégraphique, en fait, on peut retrouver des dynamiques du même type avec toute la logique institutionnelle, française, qui est-ce qui a le bon discours, voilà.
J'ai juste une question sur l'écriture chorégraphique.
Ouais.
C'est un écrit qu'on va faire en tant que chorégraphe avant de faire la pièce, ou c'est quoi ?
Alors, écriture chorégraphique, ça veut dire écrire du mouvement, écrire de la danse. C'est d'abord dans le corps. C'est toujours métaphorique, c'est vrai. Quand on parle d'écriture chorégraphique, on ne va pas écrire des phrases sur un cahier. C'est vrai que c'est pas du tout...
C'est tout de suite dans le mouvement.
Voilà, c'est tout de suite dans le mouvement. Okay. Ça me paraît complètement sensé parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas si évident.
Et donc, dans cette tentative de faire des parallèles entre le discours scientifique et l'écriture chorégraphique, est-ce que vous avez déjà un projet concret ou vous êtes encore en train d'explorer le terrain ?
Alors, on est disons en phase exploratoire, et en fait c'est toujours un petit peu une phase d'exploration. On a fait plusieurs collaborations. Par exemple, l'année dernière, dans le cadre du focus des rencontres à Aubenas, le thème c'était genre et sexualité. Du coup j'ai fait une performance qui introduisait un débat auquel je participais, les questions de genre, la manière dont nous, on se considère dans nos identités, par exemple, ou comment est-ce qu'on définit notre orientation sexuelle, c'est des questions que j'ai essayé de m'emparer dans ma danse, dans mon écriture. Donc très concrètement, ça va être... c'est très simple parfois. Qu'est-ce que ça veut dire être féminin ? Qu'est-ce qu'un mouvement féminin ? Est-ce qu'un mouvement féminin existe ? Je vais me poser des questions de ce type. Et ensuite, écouter une musique qui, moi, m'inspire quelque chose de féminin. Et ensuite, essayer de composer quelque chose dans cette veine. et s'en dégage ensuite une pièce que j'ai présentée l'année dernière avant le débat, et ensuite le débat arrive et on discute de ces questions. Donc c'est dans ce sens-là que les choses s'entrelacent.
Donc la complémentarité, elle se ferait par deux langages différents, en fait, pour parler d'un même sujet. Il y a le langage du corps et ensuite il y a le langage plus académique du débat, c'est ça ?
Exactement. Même si je préfère, plutôt que de dire que deux langages s'agencent, je préfère dire que d'un côté, il y a un langage scientifique, un discours scientifique, et de l'autre, un art où ce dont il s'agit, c'est plutôt du sensible, de l'affectivité.
D'accord.
Ouais. Et parce qu'en fait, tout ça vient aussi justement de mon parcours. Avant, j'ai fait des études, donc ce master en géopolitique. Et cette façon dont, dans les discours scientifiques, il y a une certaine forme d'aridité, quelque chose de très... ça peut être lourd. C'est difficile d'être embarqué dans un article scientifique.
Donc c'est pour ramener du sensible, en fait.
Voilà, ramener du sensible à l'intérieur de tout ça. Et ce travail, il est, encore une fois, très politique, parce que le but, c'est aussi de pouvoir s'en emparer. Parce que je pense qu'on peut très facilement faire le constat que... Je trouve ça très dommage qu'il y ait beaucoup de travail qui soit fait dans les sciences humaines, qui ne soit pas forcément, valorisé autant qu'il devrait l'être. Et je pense que rendre du sensible dans ce discours, c'est aussi, en fait, rendre possible une diffusion plus large de ces discours.
Et c'est ce qu'on voit aussi dans le cinéma. On va avoir plus de facilité à regarder un sujet à travers un film parce qu'il y a une histoire, il y a une fiction derrière.
Tout à fait.
Qu'il n'y a pas forcément si on lit un texte académique.
Complètement, complètement.
Et puisqu'on parle de langage, j'avais une question qui était, est-ce que vous pensez que la libération de la parole peut mener à une libération des corps et vice-versa ? Et je pensais notamment à ça peut-être par exemple dans le cadre des maltraitances au sport ou des violences sexuelles.
Mm-hmm.
Est-ce que le fait de mettre des mots là-dessus, après ça permet une libération des corps ? Et à l'inverse, est-ce que le fait de l'incarner, ça permet de libérer les langues?
Je trouve que c'est une question très intéressante. Je ne m'étais jamais posé cette question en ces termes. Et là, à froid, je dirais que oui, que complètement. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, c'est un peu comme ça que je vis la danse aussi. Il va y avoir un moment où l'expression du corps va me donner une certaine forme de confiance qui va pouvoir me permettre ensuite de l'exprimer en mots. Donc dans ce sens-là, je la trouve assez évidente, cette relation entre ces deux types de langage. Et dans l'autre sens, complètement aussi, en fait, parce que le fait d'avoir une réflexivité sur ma pratique de danse... ça m'aide à être plus précis, par exemple. Et donc, si je vais faire un mouvement où j'ai pas précisé mon intention, donc par exemple, je travaille beaucoup sur les intentions quand je danse. Est-ce que ce que je fais, c'est je donne quelque chose à quelqu'un, par exemple, en faisant ce mouvement-là. Si j'avais fait ce même mouvement auparavant, sans avoir nommé cette intention de donner, ce mouvement se serait limité à sa forme. Aurait été juste une main vers un autre. Le fait de dire que c'est un don, tout de suite, on passe du mouvement au geste.
Je vois. Et pour finir, la danse dans votre parcours, est-ce qu'elle est intervenue avant vos études plus académiques ou après, est-ce que c'est quelque chose qui s'est répondu l'un à l'autre?
J'ai la petite anecdote, c'est un soir, ma mère m'a emmené chez des amis, ils ont mis de la musique et je me suis mis à danser frénétiquement et du coup, on s'est dit que ça pouvait être sympa d'aller un peu creuser là-dedans. Donc c'est petit que j'ai commencé à danser. Au début, j'avais envie de faire de la danse classique, mais en fait, à l'opéra, justement, sur ces questions politiques, il y a des normes très fortes de taille et de poids que je correspondais pas à ces catégories, en fait, donc je pouvais pas devenir un petit rat d'opéra. Donc c'est pas grave, j'ai fait de la danse contemporaine et je suis très content d'avoir fait ce choix. Et donc sur la façon dont l'académisme universitaire s'est
articulé.
Voilà, c'est articulé à tout ça. J'adorais aussi être à l'école, étudier, apprendre des choses. Et donc, j'ai choisi ce parcours d'abord. Et en fait, à la fin de mes études, il y avait la question très concrète de mon métier qui s'était posée parce qu'en fin d'études, on peut faire des stages et tout ça. On est confronté à la vie professionnelle un peu plus frontalement. Et c'est là que je me suis dit non, en fait, la vie de danseur, chorégraphe, c'est une vie qui me donne vraiment... j'ai beaucoup envie d'avoir cette vie-là. Donc voilà. Et ensuite, du coup, je suis parti faire une formation que je suis en train de terminer là, qui s'appelle Colline, qui est basée à Istres, justement. Et voilà, et en parallèle, je mène mes projets.
Vous avez réussi à faire une alliance entre... la réflexion rationnelle et le mouvement sensible.
Voilà, c'est ça exactement.
Ça peut conclure comme ça. Et ben, merci beaucoup d'être venu parler avec nous sur Fréquence 7, Bilal Alami Badissi.
Merci beaucoup.
Et je rappelle que nous pourrons vous voir à l'ouverture du film Dancing Pina à 14h au navire pour une petite performance. Alors non, cette performance, vous pouvez me la redire ?
Hors champ,
voilà. Eh bien, merci, bon festival à vous et on se retrouve à 17h en compagnie de Mona Achache.